Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner éventuellement envie de le lire à votre tour, et ce, installé tranquillement chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors ce choix aujourd'hui,
c'est Catherine qui dit.
Et voilà. Alors bah, j'en avais déjà parlé, je l'avais promis, donc je tiens ma promesse.
T'avais promis
de... J'avais promis de lire une nouvelle de Stefan Zweig, exactement.
Excellent choix. Je suis fan.
Bon.
c'est un auteur qui a connu une fin tragique, si je me souviens bien.
Oui, c'est suicidé.
Oui, il me semblait bien.
Mais avant ce terrible dénouement, il faut juste rappeler pour les jeunes
oui.
que Stefan Zweig était un très grand pacifiste, alors c'est important, une réelle figure européenne. Alors, c'est pas mal de lire ça au mois de juin.
Oui.
Et il est considéré comme l'un des plus grands écrivains de son temps. Alors, il a été vraiment le chroniqueur de l'âge d'or de l'Europe et il est l'auteur étranger le plus lu en France au XXe siècle. Donc au siècle dernier, je ne sais pas si on le lit encore beaucoup.
Et on peut ajouter qu'il est né en 1881 qu'il est autrichien. Enfin, à l'époque, c'était l'Autriche-Hongrie. Oui.
Austro-hongrois, comme on dit.
Il est donc austro-hongrois.
Il a écrit des tas de choses passionnantes.
Hein. Oui, oui.
Tout à fait. C'est passionnant. D'ailleurs, à ce propos, moi, j'ai lu récemment... Parce qu'il a fait des biographies.
Oui. Ah ben,
il a écrit pas mal de biographies.
Énormément.
Celle de Marie-Antoinette, notamment.
Oui, des femmes, il n'y a pas que des
hommes.
Par exemple.
Alors moi, j'ai lu récemment... j'ai lu récemment Magellan et c'était passionnant. Ouais. C'était passionnant, oui. Il faut dire qu'il a voyagé beaucoup. Il a correspondu avec les intellectuels de son époque, quoi. Pendant la Première Guerre mondiale, il est envoyé au front et il devient pacifiste. D'où, sa fin. Et donc, en dehors de ses biographies, il a écrit pas mal de nouvelles.
Il a écrit Le Joueur d'échecs.
Par exemple, Le Joueur d'échecs, exactement.
C'est par là que je suis entré dans l'œuvre de Stefan Zweig.
Qui serait peut-être à lire pour une autre fois. Si la foule des auditeurs plébiscite Zweig, je m'engage à lire Le Joueur d'échecs.
Ah oui, on pourrait dire Le Joueur d'échecs. Oui. Mais il faut préciser qu'il était foncièrement dépressif.
Oui, ouais, il a vécu une époque qui n'a pas aidé.
Une époque dure. Bon, d'abord, comme tu l'as dit, il était juif. Il a vécu la guerre de 14. Il est arrivé avant la guerre de 40.
Oui, et puis alors au début de la guerre, la seconde guerre.
Même avant.
Il s'est exilé, d'abord en Angleterre, au Royaume-Uni, et puis aux États-Unis. Et puis, je trouve ça moins dramatique, il s'est suicidé en février 1942. Or, quand on regarde, février 1942, c'était juste avant la bataille de Stalingrad, là où justement les Allemands allaient commencer
à perdre.
Il aurait attendu quelques mois.
Ouais, je ne sais pas.
Après, pour quelle raison il s'est suicidé, on n'en a aucune idée. Mais...
Je pense qu'il était vraiment découragé de voir ce qu'était devenu l'Europe, parce qu'il avait vraiment tout fondé, ses espoirs, dans cette entre guillemets, grand peuple, je ne sais pas si on peut dire. Et alors, ce qui est aussi, il s'est suicidé au Brésil.
Oui, il était au Brésil à ce moment-là.
Beaucoup étaient exilés au Brésil, à Petrópolis. C'est beau, non? Au Brésil.
Ça existe, ça?
Et oui.
Petrópolis.
Et il ne s'est pas suicidé tout seul, il s'est suicidé avec sa
compagne. Avec sa compagne,
Ah ouais.
Et donc, la nouvelle que tu as choisie, Catherine?
Eh bien, il y en a pléthore. Donc, j'ai choisi une nouvelle, alors qui met en scène une femme, et qui s'appelle La peur. La peur.
Il écrit plusieurs choses sur la peur.
Cette nouvelle est dans un recueil qui s'appelle La peur. Et la thématique, je crois que c'est 6 nouvelles, c'est autour de la peur.
Et il y en a une qui s'appelle Amok et qui porte sur la peur aussi, je crois.
Ben, je pense que c'était un angoissé aussi.
C'est pas impossible.
Voilà. Alors, juste un mot.
Pardon.
Juste un mot pour situer. Ça se passe donc au début du siècle à Vienne. Il signe à la fin Vienne 1910. Irène, donc c'est le personnage principal, c'est une trentenaire, bourgeoise, mariée, 2 enfants, aimée de son mari. Ils ont de l'argent, tout va bien. Mais elle le trompe néanmoins, et elle le trompe par jeu, par envie de se divertir. Enfin, Ça paraît assez léger tout cela. Lorsqu'Irène quitta l'appartement de son amant et descendit dans l'escalier, cette peur irraisonnée s'empara d'elle à nouveau, tout à coup. Une forme noire se mit soudain à tourbillonner devant ses yeux comme une toupie. Une affreuse raideur paralysa ses genoux et elle fut obligée de se retenir très vite à la rampe pour ne pas tomber brutalement en avant. Ce n'était pas la première fois qu'elle osait prendre le risque de venir ici et cette terreur soudaine ne lui était pas du tout inconnue. Elle avait beau lutter de tout son être, chaque fois qu'elle repartait, elle succombait à cet accès de peur absurde et ridicule. Aller au rendez-vous était beaucoup plus aisé. Elle faisait arrêter la voiture au coin de la rue et, sans lever les yeux, franchissait très vite les quelques mètres qui la séparaient de la porte cochère. Puis elle montait à la hâte les marches de l'escalier, sachant qu'il attendait déjà derrière la porte, prête à ouvrir. Cette première angoisse à laquelle se mêlait cependant une brûlante impatience se dissipait dans l'étreinte passionnée des retrouvailles. Mais ensuite, quand elle s'apprêtait à rentrer chez elle, c'était un frisson différent, une mystérieuse terreur, confusément liée cette fois à l'horreur de la faute commise et à cette illusion absurde que dans la rue, chaque regard étranger pouvait, en la regardant, deviner d'où elle venait et adresser un sourire insolent à son désarroi. Les dernières minutes passées auprès de lui étaient déjà empoisonnées par l'inquiétude croissante causée par son appréhension. Au moment de partir, elle était si pressée et si nerveuse que ses mains tremblaient et elle percevait ce qu'il disait d'une oreille distraite et repoussait d'un geste impatient les derniers élans de sa passion. Partir. C'était alors la seule chose qu'elle désirait de tout son être, quitter cet appartement, cet immeuble, fuir l'aventure, retrouver la tranquillité de son univers bourgeois. Elle resta une minute ainsi, les yeux fermés, respirant avec avidité la fraîcheur dans l'obscurité de l'escalier. Alors une porte se referma à l'un des étages supérieurs. Effrayée, elle se ressaisit et se dépêcha de descendre en ajustant sur son visage d'un geste machinal son épaisse voilette. Maintenant se rapprochait ce moment ultime, le plus effrayant, la panique de gagner la rue, en sortant d'une maison qui n'était pas la sienne. Elle baissa la tête comme un athlète qui prendrait son élan pour sauter, puis soudain résolue se précipita vers la porte cochère entrouverte. Elle se cogna alors brutalement à une femme qui avait tout l'air de vouloir entrer. « Pardon, » fit-elle toute confuse en essayant de se faufiler. Mais la femme lui barrait le passage et la dévisageait avec colère, avec un mépris non dissimulé aussi. « Ah ! Je vous y prends cette fois » cria-t-elle d'une voix vulgaire sans se gêner le moins du monde. Et bien sûr, une dame comme il faut, enfin, soi-disant. Ça se contente pas d'avoir un mari, beaucoup d'argent et tout le reste. Faut encore que ça vienne chiper l'amant d'une pauvre fille. Mais pour l'amour du ciel, mais qu'avez-vous ? Vous vous trompez, bredouilla Irène en tentant maladroitement de s'esquiver. Mais la bonne femme lui boucha le passage de toute la largeur de son corps massif et l'invectiva d'une voix perçante. Non, je me trompe pas, je vous connais. Vous venez de chez Édouard, mon ami. Maintenant que je vous tiens enfin, je comprends pourquoi il s'intéressait si peu à moi ces derniers temps. C'est donc à cause de vous, espèce de... Oh, pour l'amour du ciel, l'interrompit Irène d'une voix défaillante. Mais ne criez pas comme ça. Et elle recula instinctivement sous le porche de l'immeuble. La femme la regarda d'un air moqueur. La voir ainsi trembler de peur en plein désarroi semblait d'une certaine façon la remplir d'aise. Car elle se mit à examiner sa victime avec arrogance, avec un sourire sarcastique et suffisant. Une satisfaction vulgaire enflait sa voix en lui donnant une sorte d'ampleur ostentatoire. Voilà donc à quoi ressemblent ces dames mariées, ces grandes dames distinguées quand elles viennent nous voler nos hommes. Avec une voilette, bien sûr, une voilette pour pouvoir ensuite jouer partout les honnêtes femmes. Mais que me voulez-vous donc ? Je ne vous connais pas, il faut que je parte. Partir, c'est ça, bien sûr, pour retrouver monsieur votre époux dans votre appartement douillet, pour jouer les grandes dames avec des domestiques qui les aident à se déshabiller. Mais notre sort à nous autres, qu'on crève la faim ou non, vous, la grande dame, vous vous en fichez, hein ? Ces honnêtes femmes, ça vous dépouille d'eux tout ce que vous avez. Irène fit un effort sur elle-même et, obéissant à une vague inspiration, saisit son porte-monnaie et prit les billets qui lui tombaient sous la main. Tenez, voilà, mais laissez-moi maintenant, je ne reviendrai plus jamais ici, je vous le jure. Avec un regard mauvais, la femme prit l'argent et grommelant « Garce !» À ce mot, Irène tressaillit, mais elle vit que l'autre s'écartait de la porte et elle se précipita dehors, hébétée et haletante, comme un désespéré du haut d'une tour. Tandis qu'elle courait, elle avait l'impression que les visages défilaient sur son passage comme des masques grimaçants. Déjà, tout devenait noir dans ses yeux, et elle eut beaucoup de peine à parvenir jusqu'à une automobile arrêtée au coin de la rue. Elle se laissa tomber comme une masse sur la banquette, puis tout en elle devint inerte et pétrifiée. Lorsque le chauffeur, étonné, finit par demander à cette singulière cliente où il fallait aller, elle le fixa un instant, le regard vide, jusqu'à ce que son cerveau engourdi eût enfin saisi ses paroles. « À la gare du Sud !» s'empressa-t-elle de répondre. Et pensant tout à coup que cette femme pourrait la suivre, elle ajouta « Vite, vite, dépêchez-vous !» C'est seulement pendant le trajet qu'elle se rendit compte que cette rencontre l'avait bouleversée au plus profond d'elle-même. Elle sentit ses mains rigides et glacées qui pendaient le long de son corps comme sans vie. Elle fut prise soudain de frissons si violents qu'elle en était toute secouée. Un goût amer lui monta à la gorge et elle eut envie de vomir. Tandis qu'une fureur aveugle et insensée lui donnait comme des convulsions dans la poitrine. Elle aurait voulu crier ou donner des coups de poing pour se délivrer de l'horreur de ce souvenir, fiché dans son cerveau comme un hameçon. Oublier la laideur de ce visage, son rire sardonique, la vulgarité qui émanait de l'haleine fétide de cette prolétaire, cette bouche horrible qui lui avait craché en pleine figure des paroles si haineuses et si infâmes, et ce poing rouge qu'elle avait levé pour la menacer. Cette sensation de nausée augmentée lui montait de plus en plus à la gorge, d'autant plus que la voiture qui roulait à vive allure la projetait d'un côté à l'autre. Elle allait signifier au chauffeur de ralentir lorsqu'elle pensa juste à temps qu'elle n'aurait peut-être plus assez d'argent sur elle pour le payer, puisqu'elle avait donné tous ses billets à cette extorqueuse. Elle lui fit aussitôt signe de s'arrêter et descendit brusquement, ce qui étonna de nouveau le chauffeur. Par bonheur, il lui restait assez d'argent. Mais elle se retrouva dans un quartier tout à fait inconnu, perdue dans une foule de gens affairés dont le moindre mot, le moindre regard lui causait une souffrance physique. De plus, ses jambes étaient comme amollies par la peur et refusaient presque de la porter plus loin. Il fallait pourtant qu'elle rentrât. Rassemblant toute son énergie, elle avança péniblement d'une rue à l'autre au prix d'un effort surhumain, comme si elle traversait un marais ou s'enfonçait dans la neige jusqu'aux genoux. Elle arriva enfin devant son immeuble et s'élança dans l'escalier avec une précipitation qu'elle réfréna aussitôt pour ne rien laisser paraître de son trouble. À présent que la bonne lui enlevait son manteau, qu'elle entendait dans la pièce voisine son petit garçon jouer avec sa sœur cadette et que son regard apaisé rencontrait partout des choses familières, bien à elle et rassurantes, elle retrouvera une apparence de calme. Tandis que les vagues souterraines de l'émotion agitaient encore douloureusement sa poitrine oppressée. Elle ôta sa voilette et s'efforça de détendre ses traits bien décidés à paraître naturels. Puis elle entra dans la salle à manger où son mari lisait le journal devant la table mise pour le dîner. « Il est bien tard, ma chère Irène, » fit-il sur un ton d'aimable reproche. Il se leva et l'embrassa sur la joue. Elle en éprouva malgré elle un pénible sentiment de honte et se... Ils se mirent à table et se détournant à peine de son journal, il demanda d'un air indifférent « Où étais-tu pendant tout ce temps ?»« J'étais chez Amélie. Elle avait encore une course à faire et je l'ai accompagnée », ajouta-t-elle, aussitôt furieuse contre elle-même d'avoir répondu sans réfléchir en mentant aussi mal. D'ordinaire, elle fourbissait toujours à l'avance un mensonge ingénieux, capable de résister à toutes les vérifications éventuelles. Mais aujourd'hui, la peur... le lui avait fait oublier, la contraignant à une improvisation aussi maladroite. « Qu'as-tu donc? Tu parais bien nerveuse. Et pourquoi n'enlèves-tu donc pas ton chapeau ? » demanda-t-il. Elle tressaillit en s'apercevant que son trouble venait à nouveau de la trahir, se leva précipitamment et alla dans sa chambre pour enlever son chapeau. Là, elle s'observa dans le miroir jusqu'à ce que son regard inquiet lui parût retrouver toute son assurance, puis elle retourna dans la salle à manger. La bonne servit le dîner et ce fut une soirée comme toutes les autres, peut-être un peu plus silencieuse et moins cordiale que d'habitude. Une soirée où la conversation fut morne, sans entrain, souvent hésitante. La pendule, dont le lent rythme d'acier arpentait le silence, redonnait imperceptiblement à son cœur un peu de son insouciance et imperturbable régularité.
Let me be the name you whisper when you're dreaming in the night. Be the hand you reach for every time you need to hold on tight. The one who's there beside you when the worst of troubles come. Let me be the one.
Let me be the place you hide away when you need somewhere to go. The keeper of your secrets that no one else should know. Be the winding road you head for every time you're on the run. Let me be the one. Let me be the one. Let me be the one forevermore. Let me be your true companion as we travel in through time. The one who will protect you, not the one who falls behind. I wanna be your hero. I wanna lift you from the flood. I wanna pull you from the fire. I wanna help you rise above. I wanna be the lightning in your eyes. I wanna stand and fight for you. I wanna be the place wherever hearts are true. Let me be the one. Let me be the one. Did you know the way I felt? Or did you just now realize? Did you know what you always wanted when you looked into my eyes?
I promise that I'll love you whatever moments come. Let me be the one.
Bon, on comprend mieux le titre de la nouvelle.
Oui, ben vous n'avez pas fini de comprendre.
Elle est terrorisée, cette pauvre femme.
Alors, donc, la peur, hein, la peur. En allemand, petite interrogation.
Angst.
Bravo, angst.
J'ai le papier sous les yeux.
Ah, le tricheur.
Ça. J'ai le connecteur sous les yeux.
La réaction, hein. Tout de suite. Alors, moi, chercher dans ma tête.
Eh, anxieux aussi, hein. Il y a quand même des... C'est une langue européenne, quand même.
Oui. Anger, en anglais.
Voilà. Alors, elle a été écrite, cette nouvelle, en février, entre février et avril 1913. donc il faut resituer. Et elle paraît la première fois à Berlin en 1920. Mais cette nouvelle, elle occupe une place particulière dans l'œuvre de Stefan Zweig. D'une part, elle est une des rares nouvelles de l'écrivain à avoir fait l'objet d'une édition séparée, même si maintenant on le trouve en recueil, mais elle a été, enfin, elle existe toute seule, parce que c'est comme un petit roman, hein, c'est plus de 70 pages, entre 70 ou 100 pages, ça dépend de l'édition. Et ce n'est qu'en 1938 qu'elle est intégrée à un recueil qui est appelé Kaléidoscope, puis après qui s'appellera La peur. Et d'autre part, ce qui est curieux, c'est qu'il existe deux versions, une version longue, la version originale, parue en 1920, et une version courte, parue en 1925. Donc, la version courte sera publiée pour la première fois en France en 1935. Donc, c'est curieux.
C'était une exigence d'éditeur, peut-être ?
Je crois que c'est lui, non ? De lui-même.
Ah non, c'est lui.
Alors, ouais.
Et aujourd'hui, c'est la version courte que tu as choisie.
Alors, par exemple, moi, j'ai dans la collection book, enfin, poche, la pochothèque, toutes les œuvres, enfin, une bonne partie, parce que là, il n'y a qu'un tome. J'ai la version longue et il y a des petits crochets pour marquer ce qu'il a coupé dans la deuxième. D'accord. Mais souvent, dans les petites éditions, tu peux trouver que la courte. Voilà.
En fait, pour faire la courte, il a coupé dans la longue, il n'a pas réécrit.
Il n'a pas réécrit, oui, il a juste coupé.
Ben, on est pressé d'entendre la suite.
Eh bien, vous allez entendre la suite. Sa première riposte fut d'envoyer à son amant une lettre brève, l'informant qu'elle ne pourrait venir à l'heure convenue ni le lendemain, ni les jours suivants. Elle avait fait la connaissance de ce jeune homme au cours d'une soirée. C'était un pianiste réputé, mais dans un milieu encore restreint. Peu de temps après, sans le vouloir vraiment ni comprendre au juste pourquoi, elle était devenue sa maîtresse. En fait, elle n'avait éprouvé aucune attirance physique pour lui. Son attachement n'avait rien de sensuel et, pour ainsi dire, rien d'intellectuel. Elle s'était donnée à lui sans besoin réel et même sans véritable désir, par une sorte de paresse à résister à ses avances, et par une espèce de curiosité inquiète. Elle était tout à fait heureuse aux côtés d'un époux fortuné, de ses deux enfants. Elle jouissait avec indolence de son existence sereine et confortable de grande bourgeoise. Mais il y a des atmosphères languides qui rendent aussi sensuelles que l'orage ou la tempête, des bonheurs bien tempérés qui sont plus exaspérants que le malheur. La satiété ne tourmente pas moins que la faim, et cette existence protégée, dépourvue de risques, lui donnait des envies d'aventure. Au bout de quelques semaines, elle avait assigné à ce jeune homme, son amant, une place bien définie dans sa vie. Elle lui accordait un jour par semaine, comme à ses beaux-parents. Cet amant ne modifia bientôt plus rien au fonctionnement tranquille de son existence. Il venait en quelque sorte accroître son bonheur tempéré, comme un troisième enfant ou une automobile. Cette aventure ne tarda pas à lui paraître aussi banale que les plaisirs légitimes. Maintenant que pour la première fois elle était confrontée au danger et qu'elle allait devoir payer le véritable prix de l'aventure, elle se mit à calculer mesquinement la valeur. Gâtée par le sort, choyée par sa famille, presque sans désir du fait de sa fortune, il lui sembla que ce premier désagrément était excessif pour sa nature délicate. D'emblée, elle se refusait à renoncer aussi peu que ce fût à sa tranquillité d'esprit, et en fait, elle était prête à sacrifier sans hésitation son amant à son confort personnel. La réponse du jeune homme, écrite dans la panique, avec nervosité, dans un style haché, lui avait été apportée l'après-midi même par un coursier. Cette lettre où il l'implorait d'un ton bouleversé, où il se plaignait, l'accusait, ébranla à nouveau sa décision de mettre fin à cette aventure. Cette violence flattait sa vanité et ce désespoir exacerbé la ravissait. Son amant la suppliait dans les termes les plus pressants de lui accorder au moins une brève entrevue pour qu'il puisse au moins se justifier au cas où il l'aurait blessée d'une façon ou d'une autre sans le savoir. Alors ce jeu nouveau la tenta. Elle continuerait à bouder et se refuserait sans motif pour se rendre encore plus désirable. Elle lui proposa donc de le rencontrer dans un salon de thé. Elle demeura cette fois inaccessible à ses demandes et fut même avare de promesses, car elle sentait combien ce retrait, ce refus mystérieux et soudain aiguisait son désir. Et lorsqu'au bout d'une demi-heure de conversation passionnée, elle le quitta, sans lui avoir accordé ni même promis la moindre tendresse, elle sentit en elle un feu très étrange, comme elle n'en avait connu que jeune fille. Il lui semblait qu'une petite flamme pétillante rougeoyait au plus profond d'elle-même, n'attendant que le vent qui viendrait fouetter ce feu pour l'embraser des pieds à la tête. Elle saisissait au passage chacun des regards que lui décochait la rue, et le succès inattendu qu'elle avait auprès des hommes la rendit si curieuse de voir son visage qu'elle s'arrêta soudain devant le miroir de la vitrine d'une fleuriste pour admirer sa propre beauté dans un cadre de roses rouges et de violettes scintillantes de rosée. Alors, quelqu'un lui toucha l'épaule. Elle se retourna. « Mais que voulez-vous donc encore ? » bredouilla-t-elle, horrifiée en apercevant brusquement le visage détesté. Et sa frayeur redoubla de s'entendre prononcer ces funestes paroles. Elle s'était pourtant promis de ne pas reconnaître cette femme si elle venait un jour à la rencontrer à nouveau, de tout nier, de tenir tête à cette extorqueuse. Maintenant, il était trop tard. « Je vous attends ici depuis une demi-heure déjà, Madame Wagner. » Irène tressaillit en entendant son nom. L'autre savait comment elle s'appelait, où elle habitait. Maintenant, tout était perdu. Il n'y avait plus de salut, elle était à sa merci. « Que voulez-vous, mais que voulez-vous donc de moi ?»« Vous le savez bien, Madame Wagner. » Irène frémit à nouveau en entendant son nom. « Vous savez parfaitement pourquoi je suis là. » Mais je ne l'ai plus jamais revu. Maintenant, laissez-moi, je le verrai plus jamais. » La femme attendit tranquillement que l'émotion empêchât Irène de continuer, puis elle lui dit sèchement, comme à un subalterne, « Ne mentez pas, je vous ai suivi jusqu'au salon de thé. » Vite, elle fouilla dans son manchon, ouvrit sa bourse en argent et en sortit tout ce que ses doigts purent attraper. « Donnez-moi donc aussi la bourse pour que je perde pas l'argent. » ajouta-t-elle avec une moue railleuse et un petit rire gloussant. Irène la regarda dans les yeux, mais juste une seconde. Cette impudence éhontée, vulgaire, était insupportable. Elle sentit un profond dégoût envahir tout son corps comme une brûlante douleur. S'en aller, rien que s'en aller, ne plus voir ce visage surtout. Détournant la tête, elle lui tendit très vite la précieuse bourse, puis poussée par la terreur, elle monta l'escalier en courant. Maintenant, la terreur hantait sa maison et ne quittait plus les lieux. Durant toutes ces heures vides qui ramenaient sans cesse par vagues à sa mémoire les images de cette effroyable rencontre, elle prenait très clairement conscience que sa situation était sans espoir. Cette femme connaissait son nom et son adresse, sans qu'Irène parvînt à comprendre comment. Et maintenant que ses premières tentatives avaient si bien réussi, elle ne reculerait sans doute devant aucun moyen pour tirer parti de ce qu'elle savait et exercer un chantage permanent. Pendant des années et des années, elle serait comme un cauchemar qui pèserait sur sa vie et dont rien, pas même l'effort le plus désespéré, ne la délivrerait. Car Irène avait beau être fortunée et mariée à un homme riche, il lui était impossible, sans en informer son époux, de réunir une somme aussi importante pour se débarrasser une fois pour toutes de cette femme. Le malheur était inéluctable. Elle en avait maintenant l'effroyable certitude, il était impossible d'y échapper. Mais alors qu'allait-il arriver ? Du matin au soir, elle ressassait cette question. Un jour, une lettre arriverait pour son mari, elle le voyait déjà entrer, blême, le regard sombre, la prendre par le bras, la questionner. Mais ensuite, que se passerait-il ensuite ? Que ferait-il ? Là, les images s'évanouissaient soudain dans les ténèbres d'une sourde et cruelle angoisse. Elle ne distinguait rien au-delà et ses conjectures se perdaient dans des abîmes vertigineux. Mais au cours de ces sombres réflexions, il lui vint une pensée qui la pétrifia. En vérité, elle connaissait très mal son mari et se trouvait presque incapable de prévoir ses décisions. Elle l'avait épousé à l'instigation de ses parents, mais sans réticence et en éprouvant pour lui une tendre sympathie qui n'avait pas été déçue au fil des années. Elle vivait depuis 8 ans déjà à ses côtés, au rythme tranquille d'un bonheur agréable. Il lui avait donné des enfants, un foyer et bien des moments d'intimité physique. Mais maintenant qu'elle se demandait comment il allait se comporter, elle s'apercevait à quel point il lui était resté étranger et mal connu. Elle commença alors à examiner la vie de son mari dans les moindres détails susceptibles de la renseigner sur son caractère. La peur frappait maintenant comme un heurtoir, hésitant contre chaque petit souvenir pour trouver l'entrée des chambres secrètes de son cœur. Cela faisait maintenant 3 jours qu'elle n'avait plus quitté la maison. Et non sans malaise, elle remarquait que sa présence, soudain si constante, avait déjà éveillé l'attention des autres, car d'habitude, il était rare qu'elle restât dans ses appartements plusieurs heures, et à plus forte raison, plusieurs jours. Les premiers à s'apercevoir de ce changement furent ses enfants, surtout son fils, qui exprima avec une candeur et une franchise embarrassante son étonnement de voir maman rester autant à la maison. Dès qu'elle voulait se rendre utile, elle dérangeait un ordre établi, et si elle témoignait de la sympathie, cela semblait suspect. En outre, elle n'avait pas l'habileté de rendre sa présence constante moins visible en gardant une sage réserve et en restant tranquillement dans une pièce avec un livre ou un ouvrage. Comme chaque fois qu'elle éprouvait un sentiment d'une certaine violence, son angoisse s'exprimait par une nervosité qui la chassait sans cesse d'une pièce à l'autre. À chaque fois qu'elle entendait le timbre du téléphone ou un coup de sonnette à la porte, elle sursautait et elle sentait sa tranquille existence se désagréger et lui échapper soudain. Et cette impuissance lui laissait déjà pressentir la ruine de toute une vie. Ces 3 journées passées dans le cachot de ses appartements lui parurent plus longues que les 8 années de son mariage.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
Étonnant comme sujet, cette femme qui s'enferme dans son mensonge.
Oui, tout à fait. Depuis que cette femme l'a interpellée, elle hante ses journées et ses nuits et elle vit dans la peur de se faire prendre par son mari, de se faire dénoncer par la maître chanteuse.
Bon, il y a l'histoire qui nous paraît d'une autre époque, un peu, bien sûr. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le style. C'est-à-dire qu'on le voit et puis on va le voir. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait deux romans en mêlée, le présent et le passé, puisque elle parle de son début,
mari qu'elle ne connaît pas.
Voilà, ouais. Voilà, donc il y a tout ça.
On imagine bien cette vie.
Et puis aussi, je pense un des intérêts littéraires de cette nouvelle, enfin de ce texte, c'est la dimension psychologique de l'ouvrage. En fait, la chronologie du texte, de la narration, c'est extrêmement modulable. Et alors, ça participe à la production d'un effet de réel entre les sentiments du personnage et le rythme narratif. Alors, le rythme, c'est intéressant, parce que le rythme du récit s'adapte et s'articule selon l'état et la situation du personnage. Donc, quand elle est paralysée par la peur, en pleine introspection, le récit s'étale, devient plus lent. Et dès qu'elle est reprise par son stress et son angoisse, qu'elle fuit, le récit s'accélère. Même presque jusqu'à outrance. Même en le lisant, on est presque essoufflé, quoi. Donc c'est vraiment une écriture qui suit le sentiment. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Voilà.
Ça, c'est une des qualités de Zweig. Hein. Dans toutes ses nouvelles, il a une façon d'écrire qui est extrêmement expressive, enfin, qui s'adapte à la situation.
Et exactement. On imagine bien la femme l'a harcelée pour lui extorquer toujours plus d'argent. Si elle ne voue pas, on ne voit pas dans quel état elle pourrait se retrouver, quoi.
Comment elle peut s'en sortir ? Et ben dans le dernier extrait, enfin c'est un montage, hein, vous l'avez compris, parce que je fais un petit découpage un peu compliqué pour que vous arriviez à suivre l'histoire, mais en même temps arriver jusqu'au bout, parce que je vais oser aller jusqu'au bout.
Non, c'est très homogène ce que tu nous as lu.
Voilà. Eh bien, elle est obsédée par cette femme, et elle est tellement obsédée qu'elle en fait des cauchemars. Et après, on verra dans le montage, mais après plusieurs demandes d'argent de la part de la femme, qui ose même venir jusque chez elle. Et une fois, elle vient chez elle et elle lui demande encore de l'argent. Et elle va...
Et la bourse.
Et la bourse. Mais là, elle a tellement peur que son mari arrive, etc., qu'elle dit « mais j'ai pas d'argent », parce qu'elle a pas d'argent comme ça, planqué. Et la femme lui dit « bah, donnez-moi votre bague ». Et c'est sa bague de fiançailles. Donc vous imaginez, plus la bague de fiançailles au doigt, après 8 ans de mariage, ça va avoir du mal à passer, ça. Hein. Elle ouvrit les yeux et son regard effrayé rencontra celui de son mari. Mais que se passait-il ? Elle était dans sa chambre, le lustre faisait une lumière blafarde, elle était chez elle, dans son lit. Elle avait seulement rêvé. Mais pourquoi son mari était-il assis au bord de son lit et la regardait comme une malade ? Qui avait allumé la lumière ? Pourquoi restait-il là, l'air si grave, sans bouger ? Un frisson d'effroi secoua tout son corps. Elle regarda instinctivement la main de son mari. Non, il n'y avait pas de couteau dedans. La torpeur du sommeil se dissipa lentement, ainsi que les images qu'il avait traversées par éclairs. Elle avait dû rêver, crier dans son rêve et le réveiller. Mais pourquoi la considérait-il de cet air grave, d'un regard si pénétrant, si impitoyable ? Elle s'efforça de sourire. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Je crois que j'ai fait un mauvais rêve.
Mais oui, tu as crié fort, je t'ai entendu depuis l'autre pièce.
Mais qu'ai-je crié ? Que lui ai-je dévoilé ? Pensa-t-elle en frémissant. Que sait-il maintenant ? Elle osait à peine relever la tête pour le regarder, mais il la contemplait toujours d'un air grave, avec un calme singulier.
« Mais qu'as-tu, Irène ? Il t'arrive quelque chose ? Tu es complètement transformée depuis quelques jours. On dirait que tu as de la fièvre. Tu es nerveuse, désorientée, et tu appelles au secours dans ton sommeil. »
Elle s'efforça encore de sourire.
« Non ! »
insista-t-il.
« Tu ne dois rien me cacher. » As-tu des soucis ? Est-ce que quelque chose te tourmente ? Tout le monde dans la maison a déjà remarqué à quel point tu es transformée. Il faut que tu aies confiance en moi, Irène.
Il s'approcha d'elle doucement. Elle sentit sur son bras nu le contact de ses doigts qui la caressaient. Il avait une étrange lueur dans les yeux. Un désir l'envahit de se jeter maintenant contre ce corps vigoureux, de se cramponner, de tout avouer et de ne pas le laisser partir avant qu'il n'eût pardonné, maintenant, en cet instant où il l'avait vu souffrir. Mais le lustre faisait une lumière blafarde éclairant son visage et elle eut honte. Elle avait peur des mots. « Ne t'inquiète pas, Fritz, » dit-elle en essayant de sourire, tandis que son corps frissonnait jusqu'au bout de ses pieds. « Je suis juste un peu nerveuse, ça va bientôt passer. » La main qui l'enlaçait déjà se retira brusquement. Elle frémit alors en le voyant, livide sous cette lumière froide et le front surmonté par les ombres pesantes de sinistres pensées. Lentement, il se redressa.
« Je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression tous ces jours-ci que tu avais quelque chose à me dire. Une chose qui ne regarde que toi et moi. Nous sommes seuls à présent, Irène. »
Elle restait là, étendue, sans bouger, comme hypnotisée par ce regard grave et voilé. « Dire que tout pourrait s'arranger maintenant, » pensait-elle. « Il lui suffisait de prononcer un mot, juste un mot, pardon. » Et il ne lui demanderait pas de quoi. Mais pourquoi la lumière brûlait-elle si forte, insistante, indiscrète ? Tel un acide, la peur qui l'a rongée avait décomposé sa vie en ses différents éléments. Tout à coup, les choses avaient un autre poids, les valeurs n'étaient plus les mêmes et les rapports s'embrouillaient. Il semblait n'avoir jusqu'ici avancé dans sa vie qu'à tâtons, dans un état quasi crépusculaire, les yeux mi-clos. Et voilà que soudain, tout s'éclairait de l'intérieur et devenait lumineux, d'une clarté terriblement belle. Tout près d'elle, à portée de la main, se trouvaient des choses auxquelles elle ne s'était jamais intéressée et dont elle comprenait brusquement qu'elles représentaient sa véritable vie. Et à l'inverse, ce qui lui avait semblé important s'évanouissait en fumée. Jusqu'ici, elle avait une vie sociale intense, au milieu du bruit et des bavardages, des gens qui ont de la fortune et, de fait, n'avaient vécu que pour cela. Mais maintenant qu'elle était restée enfermée pendant une semaine dans sa propre maison comme dans un cachot, cela ne lui manquait en rien, et elle n'éprouvait au contraire que dégoût pour tous ceux qui n'ont rien à faire et qui s'agitent dans le vide. Malgré elle, ce premier sentiment fort qu'elle éprouvait lui permit de découvrir combien ses goûts jusqu'ici avaient été futiles et qu'elle avait commis l'immense erreur de ne pas exprimer son amour par des actes. Considérant son passé, elle vit un abîme. En 8 ans de mariage, dans l'illusion d'un bonheur trop modéré, elle ne s'était jamais rapprochée de son mari, restant étrangère à ce qu'il était vraiment, autant qu'à ses propres enfants. Depuis qu'elle connaissait le danger et avait éprouvé grâce à lui un véritable sentiment, elle commençait à se sentir des affinités avec tout, et même avec ce qui lui était le plus étranger. Elle se retrouvait en toutes choses, et le monde jadis transparent comme le verre devint tout à coup un miroir à l'endroit obscur où elle faisait une ombre. Où que se portât son regard, son attention, c'était soudain réel. Elle luttait maintenant depuis 2 semaines et se sentait à bout de force. Cela faisait déjà 4 jours que la femme ne s'était pas montrée et la peur s'était déjà si bien infiltrée dans son corps et mêlée à son sang qu'elle bondissait chaque fois que l'on sonnait à la porte pour intercepter à temps la lettre de chantage. Juste une petite explication, donc... J'ai là coupé un gros morceau. La femme revient. Elle revient donc lui extorquer la bague de fiançailles. À partir de ce moment-là, elle ne voit plus de solution à son malheur. La pharmacie n'était pas loin. Elle y entra avec un léger frisson. L'apothicaire prit l'ordonnance et commença la préparation. Durant cette minute, Irène vit tout. La balance étincelante, les poids minuscules, les petites étiquettes, et en haut des armoires, l'alignement des essences avec leurs noms étranges en latin que ses regards déchiffraient machinalement. Elle entendait le tic-tac de la pendule, sentait ce parfum particulier, l'odeur grasse et douceâtre des médicaments. Elle se souvint alors qu'elle avait négligé de faire ses adieux à sa mère, et elle eut terriblement pitié de la pauvre femme. Comme elle allait s'affoler, pensa-t-elle horrifiée. Mais déjà l'apothicaire comptait les gouttes claires qu'il transvasait d'un bocal ventru dans une fiole bleue. Le regard fixe, elle voyait la mort passer d'un récipient dans l'autre. Bientôt elle coulerait dans ses veines et une sensation de froid s'infiltra dans tous ses membres. Tous ses sens étaient fascinés et paralysés par l'atroce pensée. « Deux couronnes, s'il vous plaît, » dit l'apothicaire. Elle sortit de son hébétement et jeta autour d'elle un regard absent. Puis elle fouilla machinalement dans son sac pour prendre l'argent. À cet instant, elle sentit que son bras était vivement repoussé sur le côté et elle entendit des pièces teinter dans la coupelle de verre. Une main s'avança à côté d'elle et s'empara de la fiole. Machinalement, elle se retourna et son regard se figea. C'était son mari qui était là, crispé, les lèvres serrées. Son visage était livide et sur son front luisaient des gouttes de sueur. Elle faillit s'évanouir et dut se cramponner au comptoir.
« Viens !»
dit-il d'une voix sourde et étranglée. Ils traversèrent la rue côte à côte. Ils ne se regardaient pas. Il tenait toujours la fiole dans sa main. Mais elle n'osait pas le regarder. Ni l'un ni l'autre ne soufflait mot. Le tumulte de la rue déferlait entre eux. Dans l'escalier, il la fit passer devant lui et dès qu'il ne fut plus à ses côtés, ses jambes flageolèrent. Elle s'arrêta et chercha un appui. Alors il lui soutint le bras. À ce contact, elle tressaillit et elle monta plus rapidement les dernières marches. Elle entra dans sa chambre et il la suivit. Les murs avaient un éclat sombre. On pouvait à peine distinguer les objets. Il ne disait toujours rien. Il déchira le papier d'emballage, déboucha le flacon, en vida le contenu, puis le lança violemment dans un coin et sursauta en entendant le bruit du verre. Il gardait toujours le silence. Elle devinait combien il se contraignait. Elle le devinait sans le regarder. Enfin, il vint vers elle, plus près, puis tout près. Elle sentait qu'il respirait avec difficulté et son regard fixe comme embrumé distinguait l'éclat de ses yeux, étincelant dans l'obscurité de la pièce. Elle s'attendait à entendre exploser sa colère. Elle frissonnait sur place à la pensée d'être agrippée par sa main de fer. Le cœur d'Irène s'arrêta de battre. Seuls ses nerfs vibraient comme des cordes tendues à l'extrême. Tout en elle attendait le châtiment et elle désirait presque sa colère. Mais il continuait à se taire et avec une surprise infinie, elle sentit beaucoup de douceur dans sa façon de se rapprocher.
« Irène, »
dit-il, et sa voix était étrangement veloutée.
« Pendant combien de temps encore allons-nous nous faire souffrir ?»
Alors, éclatèrent soudain, convulsivement, avec une violence inouïe, comme un seul cri insensé et sauvage. Alors jaillirent enfin les sanglots qu'elle avait contenus et maîtrisés durant toutes ces semaines. Elle chancelait comme ivre et elle serait tombée à la renverse si son mari ne l'avait retenue.
« Irène !»
fit-il pour l'apaiser.
« Irène ! Irène !»
Avec une voix de plus en plus douce, de plus en plus lénifiante, en donnant à son nom des inflexions de plus en plus tendres, comme s'il pouvait calmer la révolte désespérée de ses nerfs crispés. Mais seuls des sanglots lui répondaient en rafales sauvages, comme des vagues de douleur qui lui parcouraient tout le corps. Il porta ce corps saisi de spasmes jusqu'au sofa et il l'étendit. Mais les sanglots ne se calmaient pas. La crise de larmes secouait les membres comme des décharges électriques. Soumis depuis des semaines à une intolérable tension, les nerfs avaient maintenant cédé et la douleur se déchaînait avec furie dans cette chair devenant insensible. En proie à une intense émotion, il maintenait son corps frissonnant. Il prit ses mains glacées, il l'embrassa d'abord doucement sur sa robe, dans son cou, puis avec une angoisse passionnée. Mais elle était toujours recroquevillée sur elle-même, comme déchirée par les spasmes. Et le flot de ses larmes, enfin libérées, se déversait sans retenue. Il lui toucha la figure, qui était froide et baignée de larmes. Il sentit sur les tempes les pulsations du sang. Une peur indicible s'empara de lui. Il s'agenouilla pour parler plus près de son visage.
« Irène !»
Il n'arrêtait pas de la caresser.
« Pourquoi pleures-tu ? Maintenant que tout est fini, pourquoi te tourmentes-tu encore ? Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Elle ne reviendra plus. Plus jamais. »
Irène eut un nouveau soubresaut et il la retint de ses deux mains. En sentant le désespoir qui déchirait ce corps torturé, une angoisse terrible étreignit. Il eut l'impression d'être son assassin. Il ne cessait de l'embrasser et balbutiait des excuses d'une voix entrecoupée.
Non, plus jamais, je te le jure. Je ne pouvais vraiment pas deviner que tu serais effrayée à ce point-là. Je ne voulais pas que te lancer un appel, te rappeler à ton devoir, pour que tu le quittes pour toujours et que tu nous reviennes. Je n'avais vraiment pas le choix quand j'ai appris la chose par hasard, mais je ne pouvais pas te le dire moi-même. Alors j'ai pensé que tu reviendrais. C'est pourquoi j'ai envoyé cette pauvre femme pour t'inciter à le faire. C'est une pauvre fille, une actrice au chômage, et elle n'a accepté qu'à contre-cœur. C'est moi qui ai voulu. Je vois que j'ai eu tort, mais je voulais tant que tu reviennes, et je t'ai toujours montré que j'étais prêt à... que je ne désirais rien d'autre que pardonner. Mais tu n'as pas compris, non. Je ne voulais pas te pousser à une telle extrémité. En fait, j'ai davantage souffert de voir tout ce qui se passait. J'ai surveillé chacun de tes pas. C'est uniquement à cause des enfants, tu sais, à cause des enfants que je devais te forcer. Mais maintenant, tout est terminé. Maintenant, tout va s'arranger.
Elle sentait des effleurements sur sa peau, des baisers et des caresses, avec ses propres larmes déjà refroidies. Puis tout se brouilla pour elle. Elle plongea dans les ténèbres, dans ce sommeil noir et sans rêve dont elle avait été longtemps privée. Lorsqu'elle ouvrit les yeux le lendemain matin, il faisait déjà clair dans la chambre. Et la clarté, elle le sentit, était aussi en elle, sans plus de brume, et tout son sang était purifié comme après un orage. Elle essaya de se rappeler ce qui lui était arrivé, mais tout lui apparaissait encore comme un rêve. Cette pulsation qu'elle sentait lui semblait irréelle, légère, libérée, comme dans ces vols où l'on plane à travers les airs dans son sommeil. Et pour se convaincre qu'elle ne dormait pas, elle tâta sa main. Soudain, elle sursauta. La bague brillait à son doigt. Aussitôt, elle fut complètement réveillée. Elle comprit tout d'un seul coup. Les questions de son mari, l'étonnement de son amant, tous les mailles se défirent une à une et elle vit dans quel affreux filet elle s'était empêtrée. Elle resta allongée, les yeux fermés, pour goûter plus profondément tout ce qui était sa vie et désormais aussi son bonheur.
N'ayez pas peur du bonheur. Il n'existe pas, ni ici, ni ailleurs. Da-di-da-di-da, da-di-da. Nous allons mourir demain. Ne dites plus rien. Le bonheur conjugal restera de l'artisanat local. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Je vais vous. Il est juste là, à nos pieds dévoilés. Il nous ferait presque tomber. C'est dommageable qu'on ne vive qu'une seule fois. C'est le temps d'une joie qui s'offre comme vous à moi. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Je vais vous aimer. Un peu de sel dans la mer ne changera rien. On s'adore, on s'enterre. On trouve une main et on sait. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. Da-di-da-di-da, da-di-da. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Je vais vous aimer. temps d'un baiser, je vais vous aimer.
Dis-moi, tu nous as dévoilé la chute.
Ben oui,
tu
oui,
nous
oui,
as spoilé le happy end.
Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité, mais en fait, bon, d'abord, elle vaut le coup, la chute. Et puis, je trouve que ça ne change rien au plaisir de la lecture de ce texte. Je n'ai lu que des extraits. L'ensemble de la lecture vaut la peine. Et la montée de la tension, les états d'âme, les hésitations de la femme, la pression douce et ferme du mari, le désarroi de l'amant, on vit tout ça. Et je vous conseille cette lecture, qui est quand même très rapide, hein, c'est 70 pages, même si c'est trop long pour le format de l'émission. Donc,
et que ça t'a obligé à couper.
J'ai pris ma grande paire de ciseaux, ouais. Et puis voilà.
Mais c'est un véritable drame psychologique. Stefan Zweig n'a pas son pareil pour sonder l'âme humaine. Franchement, je ne m'y attendais pas. Il décrit Irène, ses actions, ses réactions, ses sentiments, ses motivations, sans jamais la juger. Et l'évolution psychologique suit une courbe en crescendo. Parfait. Bref, Stefan Zweig, je suis très étonné.
Oui,
Zweig étonne par l'art subtil qu'il a d'explorer les sentiments humains.
Oui.
Et les sentiments d'une femme.
Et les sentiments d'une femme, oui, oui.
Mais ça, on le retrouve aussi,
quelle
moi
chute.
Je pense aux joueurs d'échecs.
Ah ouais,
les, tous les sentiments de tous les protagonistes sont particulièrement bien rendus. Et je pense aussi à sa biographie de Marie-Antoinette. C'est une biographie qui est assez originale, en fait. Hein. Il l'a fait avec une vision de la personne. Marie-Antoinette, qui est une noble comme ça, qui se retrouve mariée au roi de France et qui vit dans le luxe, et qui... au moment de la Révolution, va connaître une...
Oui, il est capable de se mettre à la place des gens qu'il décrit.
Et puis tu cites Marie-Antoinette, il a écrit aussi, comme par hasard, une biographie de Marie Stuart. Deux femmes qui ont mal fini. Les deux, on leur a coupé la tête, comme par hasard. Je ne sais pas si c'était un parti pris. Non,
rigole,
parce qu'il a écrit une biographie de Marceline Desbordes Valmore. Je ne crois pas qu'on lui ait coupé la tête, elle.
Donc c'est un petit bijou littéraire.
Ouais.
Hein, la femme, le mari, l'amant et la peur. Hein, c'est une longue nouvelle. On peut appeler ça un thriller psychologique,
ouais.
Ça nous tient en haleine et ça nous communique avec intensité tous les états émotionnels de cette femme.
À lire.
À lire absolument. On arrive à la fin de l'émission. Catherine, tu peux nous redire le titre de la nouvelle ?
Donc, c'est La peur de Stefan Zweig. On peut le trouver en édition séparée, mais ça existe aussi dans un petit recueil de 6 nouvelles qui s'appelle La peur. Hein. Mais il y a plein d'autres nouvelles, donc j'espère que vous aurez envie de lire ça et que vous aurez aussi envie de lire d'autres nouvelles, d'autres textes de Zweig. Ça vaut le coup. Et puis, il y en a à la bibliothèque aussi, si vous ne voulez pas acheter les livres.
Et comme c'est un texte qui est un peu ancien et qu'il n'y a plus de droit dessus, il est en accès libre sur Internet.
Alors, il est en accès libre exactement sur Internet. Donc la peur, vous pouvez la lire sur Internet.
Voilà, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas lire La peur. Catherine, Hervé, merci beaucoup pour le choix de ce texte. Merci beaucoup pour cette lecture, Catherine. Et au mois prochain, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.